Bonjour, je suis Cyril Attias, fondateur d'ADMS.Paris. Après une carrière de plus de 20 ans dans le digital, je veux donner la parole à ceux qui tirent les ficelles du monde du marketing et de l'influence. Marketing et influence, c'est donc le podcast où l'on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et de marketing d'influence. Vous êtes influenceur, directeur marketing ou communication, créateur de contenu ou tout simplement curieux d'en apprendre davantage sur le marketing d'influence? TikTok, Instagram, Twitch, Twitter et Facebook sont vos terrains de jeu. Alors arrêtez-vous ici et tenez-vous prêt à découvrir le nouvel invité du jour.
Quand tu suis un influenceur ou un créateur de contenu et que tu vois passer une marque, deux marques, trois marques, donc ça, je trouvais ça très dommage. Même quand je vais activer un influenceur que je vais chercher pour faire de l'image, en tout cas, moi, je ne veux pas sacrifier le fait que les ventes permettent de rentrer dans nos frais.
Ce podcast vous est présenté par ADMS.Paris, créateur de stratégies d'influence à impact. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Marketing et Influence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Albert Prénaud, un expert chevronné en marketing et communication et actuellement Chief Marketing Officer chez Showroom Privé Group. Avec une carrière en agence, Albert nous offre un aperçu de son parcours professionnel et de ses expériences clés qui l'ont conduit à occuper ce poste stratégique. Dans cet épisode, Albert nous plonge dans les coulisses de l'univers du marketing 360. Il partage avec nous comment il a remis au goût du jour les campagnes d'influence, les transformant habilement en des stratégies 360 degrés innovantes et efficaces. Bonne écoute. Bonjour Albert.
Bonjour.
Albert, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter ?
Avec plaisir. Donc moi c'est Albert Prénaud. Je suis aujourd'hui CMO du groupe Showroom Privé. Je m'occupe donc principalement du marketing au sens large du terme pour Showroom Privé, la plateforme, mais aussi en supervision de beauté privée.
D'accord.
Dans le groupe, il y a aussi The Braderie, mais qui est encore indépendant.
Et d'accord.
Donc voilà. Donc on est plus dans un échange de bons procédés, de best practices, que dans une supervision.
D'accord. Et donc aujourd'hui, ça fait combien de temps que t'es chez Showroom?
Aujourd'hui, ça doit faire un an et demi.
Un an et demi.
Ça reste assez récent. Avant ça, je faisais un autre métier. Avant ça, j'étais dans la com.
La com.
Et je travaillais dans une très belle agence qui s'appelle BETC.
Ah, très belle agence.
Voilà. Et je travaillais sur des très gros clients internationaux.
Digital aussi ou
360.
360,
je faisais,
ouais.
Je faisais un peu de tout. Et j'ai travaillé notamment pour des gros clients comme Total Energy, comme Cisco, comme Budweiser, comme Coca-Cola.
Ouais, de belles marques.
Des très belles marques, quoi. Et avant ça, si on prend une machine à remonter le temps, j'ai travaillé à Londres et à Los Angeles dans une agence aussi et pour une autre très belle marque qui s'appelle Apple.
Très bien. Donc chez TBWR.
Chez Media Arts.
Chez Media Arts.
Exactement.
Où je suis passé.
Voilà. Ah, je savais pas.
J'ai fait TBWA pendant 2 ans.
Ça, je savais, mais
je savais
pas.
Et Media Arts, qui était à Paris, l'agence dédiée Apple.
À Paris?
Alors, non, j'ai pas travaillé pour eux, mais
d'accord,
je suivais pas mal le Media Arts.
Ok.
Parce qu'on voulait faire Social Media Arts.
Intéressant.
Ouais, mais
c'était un bon concept, Media Arts Lab. Hein,
bah oui, c'était un super...
Un mélange très savant de création et de médias, qui est quelque chose qui, malheureusement, s'est un petit peu perdu en route, alors que au final, réfléchir à la création avec son application média effective
dans le sens publicitaire
exactement, je pense que c'est la bonne, c'est une très
je me rappelle d'une pub qu'ils avaient fait au Japon, ils avaient mis Nissan sur un immeuble.
Ouais.
Donc c'était un genre d'exécution qu'ils faisaient à l'époque. Donc tu avais un espace affichage classique et ils avaient foutu la bagnole sur l'immeuble. Donc pas la vraie je pense parce qu'elle était trop lourde, mais en tout cas, elle ressemblait beaucoup à la vraie. Et c'était ce genre d'happening qui était assez efficace, quoi. Et moi je voulais rajouter le social, mais c'était en 2010, donc c'était un poil trop tôt.
Ça existait à peine.
Ouais. Instagram était pas là, donc les réseaux sociaux n'existaient pas, on va dire. Super. Donc CMO chez Showroom Privé. Tu peux nous définir un peu plus ta fonction ou ton rôle aujourd'hui, parce que j'imagine que du coup sur un acteur comme Showroom Privé Group, c'est assez polyvalent quand même.
Ouais, on s'ennuie pas.
Ouais, j'imagine.
Donc, techniquement, je suis CMO, mais je suis aussi en charge du développement international. Mm-hmm. Donc, le développement international, comme son nom l'indique, c'est la mission, elle consiste à développer l'activité de showroom en B2C à l'international dans les pays où la marque est déjà implantée. Donc, je vais pas rentrer dans le détail, mais on est implanté dans plusieurs pays en Europe. Et l'enjeu, c'est d'accélérer en fait le développement dans ces pays-là. Donc on se parle d'Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Pays-Bas.
Toujours sous la marque Showroom.
Toujours sous la marque Showroom, à part en Italie où c'est où le nom, on a gardé le nom de l'entreprise qui avait été achetée il y a quelques années, qui s'appelle Saldi Privati. Et ça sur l'international en 2023, on a eu une croissance du chiffre d'affaires de plus de 16%, donc on a plutôt pas trop mal travaillé. Voilà. Et donc ensuite sur la partie marketing, je m'occupe en fait du marketing 360, à commencer évidemment par les leviers qui sont les plus cruciaux dans notre activité, qui sont d'un côté les leviers de CRM. Mmh. Au sens large du terme, donc de l'animation commerciale via des canaux CRM jusqu'au loyalty qui passe notamment par de l'automation. Et puis un deuxième pôle qui est le pôle acquisition et performance au sens large, puisque évidemment il faut faire rentrer des membres dans la machine pour pouvoir ensuite les adresser. Donc ça c'est une grosse partie, on va dire, du boulot. Et puis derrière il y a toute la partie brand avec la partie, on va dire, média traditionnel, mais aussi les réseaux sociaux, l'influence. Et puis avec évidemment des équipes études qui nous aident à comprendre les marchés dans lesquels on évolue, les tendances, etc. Et puis on a aussi toute une partie dans l'équipe qui s'occupe du marketing B2B et donc de la relation avec les marques en fait que l'on démarche pour leur acheter du stock et le vendre sur notre plateforme. Est aussi crucial parce que on est dans un boulot qui a un boulot d'offre, ouais, évidemment. Plus l'offre est belle,
plus le sourcing pour vous au niveau des marques est capital.
Il est crucial. Exactement, il est crucial. Et donc notre boulot, il est très central au market, mm-hmm, parce que on est justement à la fois là pour accompagner, on va dire, les acheteurs dans leur démarche commerciale, pour en fait expliquer concrètement et correctement aux marques voilà ce qu'on a à leur apporter pour qu'ils aient envie de participer avec nous, et ensuite derrière, une fois qu'on a les belles marques, de les mettre en valeur au mieux auprès de nos membres pour leur donner les meilleures chances de succès.
Vous partagez avec eux, par exemple, pour avoir une belle marque, j'imagine, je pose la question, mais pour avoir une belle marque demain, tu peux lui proposer un dispositif complet,
bien sûr,
pour l'attirer entre guillemets.
Bien sûr.
Parce que je pense que ça fait partie. Ils veulent pas juste être sur le site comme une autre marque. À chaque fois, ils veulent être un peu différents.
Alors évidemment, ça fait partie des solutions, des leviers que l'on a pour soit convaincre les marques, soit d'ailleurs des leviers qu'on leur propose en fait, qui sont même à disposition s'ils ont envie eux-mêmes d'investir pour mieux encore rendre visible leur marque au travers de notre plateforme. Et effectivement, les dispositifs sont de plus en plus complexes, c'est-à-dire que à l'origine c'était des dispositifs qui étaient purement CRM avec du trade marketing, etc. Aujourd'hui on propose des dispositifs qui sont beaucoup plus larges, qui partent évidemment du CRM qui reste central, mais qui viennent s'agrémenter avec une couche potentiellement de performance marketing sur nos membres, potentiellement, mais via des leviers externes, donc du SEA, du paid social, etc., du social media, mais aussi, pourquoi pas, de l'influence. En fait, on va jusque-là et de plus en plus.
Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un sujet intéressant pour les marques, parce que des fois, elles peuvent aussi se faire découvrir via le prix, entre guillemets, parce que là, pour le coup, vous êtes moins cher. C'est un peu la promesse, normalement. Découvrir la marque à d'autres, en tout cas, un cœur de cible que vous concentrez parmi vos membres et qui, eux, après, peuvent les intéresser pour développer leur notoriété.
Ça fait tout à fait partie de notre mission et des avantages que l'on peut représenter pour les marques. Le fait de se révéler auprès d'une audience qui ne les connaît pas nécessairement, qui ne les achetait pas. Et d'ailleurs, on a des taux de réachat pour les gens qui découvrent une marque via showroom, des taux de réachat direct chez la marque qui sont très élevés, qui sont à plus de 50%.
Ouais, parce que du coup, tu leur fais découvrir la marque, ils ont essayé, ils sont rentrés dans la marque grâce au prix. Et ensuite, ils ratent pas les bonnes affaires dès qu'elles reviennent.
Exactement. Et on a une audience globale sur le groupe qui est de l'ordre de 21 millions de membres, ce qui est quand même
c'est pas rien.
Et donc, ce qui nous permet de faire découvrir effectivement une marque qui aurait envie de se révéler auprès de gens qui ne les connaissent pas. Voilà, on peut la présenter à beaucoup de monde.
Vous partagez pas les fichiers, évidemment.
On partage pas les fichiers clients.
Non, c'est une question que je me pose à chaque fois. Des fois, tu peux être retargeté par la marque en direct. Alors via toi, peut-être.
On ne partage pas les fichiers tels quels. Ouais. Ceci étant dit, on a beaucoup de dispositifs qui permettent aux marques de profiter au maximum de notre audience, en fait, via différents moyens. Donc le moyen le plus, on va dire, systématique, c'est les analyses data qu'on est capable de leur fournir à l'issue d'une vente. Ce qui leur donne en fait des informations très précises
sur un marché,
sur leur offre déjà. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui est parti en premier, comment, etc. Parce qu'en fait, on a un volume tel et on a surtout une data qui est... C'est un site qui est 100% logué aujourd'hui. Ouais. Donc peut-être qu'on va petit à petit faire évoluer ce modèle. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est un modèle qui est 100% logué. Et donc, en fait, on a de la data ultra qualifiée sur l'ensemble de nos membres qui parcourent une vente. Mmh. Donc, on est capable de dire à quel endroit ils ont été intéressés, à quel moment ils ont décidé de lâcher la navigation, où est-ce qu'ils sont, ils sont sortis, si jamais ils sont sortis.
Ça, c'est hyper crucial pour une marque qui, en général... peut vendre sur internet ou via des revendeurs, mais qui n'a pas peut-être le sens
qui a rarement de la data aussi qualifiée.
C'est ça. Ouais.
Donc ça, c'est la première, on va dire le premier élément où on fait rentrer un peu la marque dans notre basement, puisqu'on peut lui donner cette data là. Et après, on peut même aller au niveau de la région. On se dit, telle région, ça marche mieux que dans telle région, etc. Donc bref, on est capable de donner des bilans très détaillés aux marques.
Ouais.
La réalité, c'est qu'on a des bilans, on va dire, systématiques, qu'on envoie à toutes les marques à la fin d'une vente, mais que si une marque a un besoin spécifique, on peut rentrer un peu plus dans le détail de la data, en collaboration avec la marque en question. Et puis, on peut même compléter avec des études qui sont des études quali, qu'on peut faire sur notre base membre parmi les membres qui ont visité et ou acheté la marque. Ce qui nous permet d'aller creuser des points plus spécifiques dans le cadre d'un lancement produit ou d'une première exposition de marque.
Donc vous êtes un vrai outil marketing, en fait. Au-delà d'être un commerçant sur Internet,
En tout cas, on peut l'être.
Vous pouvez l'être, et ça, c'est une grosse force.
Et plus les marques en sont conscientes avec lesquelles on travaille, plus on peut aller dans l'accompagnement, on va dire, détaillé. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire. J'ai parlé des outils de trade qui sont beaucoup plus factuels, on va dire, dans l'écoutement. Donc ça, je reviens pas là-dessus. On a aussi une régie média qui permet aux marques qui soit ont des ventes chez nous, soit n'en ont pas, aussi de venir targeter notre base membre différemment via nos canaux CRM ou via des leviers externes grâce à une DMP en fait qui est en place sur notre base membre. Donc ça, c'est une deuxième manière, on va dire, d'exploiter notre base membre. Et puis on est en train de mettre en place des nouveaux systèmes qui permettent aux marques qui le désirent, dans le cadre d'un accord commercial bien entendu, de renvoyer une partie de l'audience et notamment de l'audience acheteuse chez eux, soit en boutique, soit sur leur store via un système de voucher qui sont émis à la vente. En tout cas, c'est des choses qu'on étudie en ce moment.
Ouais. Vous avez jamais fait de pop-up store, de magasins éphémères, de choses comme ça?
Alors,
parce qu'il y a beaucoup de marques qui viennent du digital, qui vont vers le physique.
Alors, pas récemment.
Pas récemment.
Pas récemment parce que, en fait, Showroom, je pense, une des forces de Showroom, c'est justement son universalité. Mm-hmm. C'est-à-dire que Showroom, c'est beaucoup de femmes, pour l'instant.
D'accord.
On est en train d'étendre.
Bon, moi, je suis client.
On est en train d'étendre. Voilà.
Je sauve.
On est en train d'étendre justement et notre offre et ouais. notre base membre aux hommes en parallèle. Hein. C'est mm-hmm. des choses qui doivent se faire en parallèle. Mais à l'origine, c'est beaucoup de femmes. Mais c'est une copie pratiquement exacte de la répartition de la population française. Ça veut dire que, en fait. Contrairement à beaucoup de marques et beaucoup mmh. de plateformes, on n'a pas aujourd'hui de surreprésentation sur les grandes villes. On parle autant au monde rural, aux petites villes, que aux grosses.
D'accord.
Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est aujourd'hui, en tout cas, une force de showroom dans sa proposition. Et je trouve que les pop-up, par définition, ils sont géolocalisés et donc ils viennent appuyer en fait sur une ça veut pas dire qu'on en fera jamais, mais ils viennent appuyer sur une audience qui est plus spécifique. Ceci étant dit, à l'origine de showroom privé existait une boutique était à Paris mais qui a fermé il y a maintenant plusieurs années.
D'accord.
Mais donc il y a pas eu de pop-up store récemment, mais la genèse de showroom, c'est une boutique en dur qui faisait le même métier, en fait.
Qui était un showroom.
Exactement.
Pour le coup.
Exactement.
Et du coup, alors, rentrons un peu dans les formats. Donc, il y a Internet, magasin, on a arrêté. Tout ce phénomène qu'on a vu arriver d'Asie, notamment, de live shopping, donc là, il y a des chiffres hallucinants, hein, d'influenceuses chinoises qui vendent pour des milliers d'euros, alors, beaucoup de sacs à main, beaucoup de produits de luxe en général, mais en tout cas, qui font des ventes en live sur leur communauté, donc c'est quasiment à la chaîne, hein, parce que je crois qu'ils louent les cabines pour les influenceurs. Est-ce que c'est des choses que vous avez essayé, que vous voulez travailler ou...
Alors, on a essayé de faire du live shopping, notamment, enfin, on a essayé pendant le Covid, on s'est rendu compte que live shopping avait eu un succès en France et en Europe qui n'existait pas au préalable. Alors qu'en Asie et en Chine en particulier, c'était déjà une pratique qui était relativement bien installée. Vu ce qui s'était passé pendant le Covid, évidemment, comme beaucoup de marques, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de le mettre en place. En particulier pour nous, qui sommes un site, qui sommes une plateforme 100% dématérialisée, où on se dit que ça peut avoir un intérêt de présenter les produits, etc. La réalité, c'est qu'on n'a pas réussi à craquer le modèle, à le rendre rentable. Donc, ça a eu du succès en termes de visites, même en termes de ventes, mmh. mais ça demandait des investissements qui étaient quand même assez importants pour arriver à des résultats qui étaient honnêtes, mais qui n'étaient pas extraordinaires. Je pense que c'est dû à plusieurs raisons. Premièrement, je ne sais pas si le marché français est le marché le plus appétant sur le long terme au live shopping. En Chine, je comprends parfaitement. Le marché, il est absolument gigantesque. Il y a des gens qui, de plus en plus, ont du pouvoir d'achat partout. C'est difficile pour une marque d'être partout, en physique. Et s'il y a besoin de convaincre, je pense que c'est un levier qui est pas inintéressant. Donc ça, voilà, ça c'est une partie de l'équation. Deuxième partie de l'équation, j'ai le sentiment qu'il y a des commerçants et des e-commerçants pour qui le live shopping est un moyen de créer un rendez-vous, de créer un événement qui permet ponctuellement de driver du trafic sur leur plateforme digitale. Et je pense notamment à des marques comme Printemps, par exemple, qui le font assez bien, qui le font très bien même. Printemps, c'est vrai que à part les nouvelles collections et les soldes, ils n'ont pas beaucoup d'événements, ils n'ont pas beaucoup d'occasions en fait de prendre la parole et de driver du trafic sur leur plateforme digitale tout au long de l'année. Donc pour eux, c'est un moyen de régulièrement en fait faire venir, avoir une occasion de faire venir les gens,
occasion. C'est de l'animation commerciale.
Exactement. Ouais. Nous, l'animation commerciale, c'est 40 marques par semaine.
Bah ouais.
Donc en fait, en gros, on a tout le temps des choses à dire, on a tout le temps des raisons de faire venir les gens chez nous. Et je vais même aller plus loin. Pour qu'un live shopping soit réussi, il faut driver du trafic. C'est pas un truc qui se fait automatiquement, naturellement. Surtout au début. Après, peut-être qu'on peut créer des habitudes. Encore que c'est quand même pas des habitudes faciles à créer. Mais il faut créer du trafic. Et on le sait, créer du trafic, ça coûte de l'argent. Et donc, créer du trafic pour un live shopping où pendant une heure donnée, je vais avoir le temps de présenter, allez, peut-être 30 produits. Alors que je pourrais créer du trafic avec ce même investissement sur une vente où je vais pouvoir présenter
300 produits. Au final, il y en a un qui est évidemment plus rentable que l'autre. Et voilà. Et je pense que, du coup, c'est moins un besoin parce que par essence, le business de showroom est un business événementiel. On appelle ça de la vente événementielle, c'est pas pour rien. Et donc, en fait, on fait venir les gens. On a des raisons de faire venir les gens régulièrement. Voilà. C'était une réponse un peu longue, mais...
Non, mais qui est intéressante parce que on a eu pas mal. C'est vrai, post-Covid, beaucoup de gens sont lancés dans le live shopping. Alors, je pense que ça a un intérêt sur des ventes flash, des ventes privées, mais... enfin, ventes privées, des ventes flash. Et c'est vrai que les influenceurs ont été vite identifiés pour amener ce trafic, justement. Parce que les marques n'ont pas de trafic, naturellement, et ont besoin de levier marketing pour faire venir les gens. Et que ça s'est un petit peu essoufflé sur la partie réseau. Et c'est pas dans la culture européenne et occidentale, je pense. Après, ça a aussi ouvert des portes sur des marques qui veulent présenter leurs produits de façon plus posée qu'un article, qu'une vidéo courte, pour aussi répondre à leurs clients. Il y a pas mal aussi de services un peu relation consommateur qui se fait vers la vidéo, notamment des marques comme Dior qui peut aller sur son site et tu peux avoir une explication par une vendeuse d'un produit, comment appliquer. Donc c'est plus dans le service, je trouve, qu'aujourd'hui ça se dirige plus vers le service que dans la vraie vente frénétique comme tu peux avoir en Asie où c'est de l'achat compulsif permanent, ce qui n'est pas trop dans le code, je trouve.
Non, et surtout pas en ce moment. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on part du live shopping et au final tu dis ça nous a permis de déclencher des nouveaux modes de présentation de produits, et ça je suis complètement d'accord, et c'est exactement la logique dans laquelle nous on travaille en ce moment. Mais tu dis un truc qui est intéressant, c'est que tu pars du live shopping mais tu gardes pas le live. Parce que c'est pas en direct. Et tu gardes pas le shopping.
C'est ça.
Il reste pas grand chose.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense que ça a révélé à pas mal de marques le fait que la vidéo existait encore et qu'on pouvait avoir des vidéos longues.
De présentation.
Sans être dans le buzz permanent, dans le snacking permanent. Et je pense que ça, c'est plutôt bien, du coup. Parce que ça a remis la vidéo un peu à sa place, je trouve.
Je suis complètement d'accord. Et pour le coup, l'intérêt de la vidéo dans le funnel d'achat, il est, pour certaines catégories en particulier, absolument transformatif.
Bien sûr.
Mais pas sous sa forme live shopping.
C'est ça.
Donc
moi j'achète encore des trucs. Alors moi je suis un geek de base, mais j'achète encore des trucs sur YouTube, quoi. Ouais. Je vois un mec qui me déballe un truc, je suis prêt à acheter, quoi.
Je te rassure, t'es pas le seul.
Donc la vidéo longue, sans que ce soit marqué live shopping, peut déclencher.
Pour certaines catégories, en tout cas, c'est très très pertinent, effectivement.
Ça marche pas mal, quoi.
On y réfléchit et on commence.
Ouais, c'est intéressant quand même.
Et enfin, c'est même plus qu'on y réfléchit. On est en train de se préparer pour techniquement pouvoir héberger de la vidéo, parce que quand on a autant de ventes que ce qu'on a nous en fait par semaine, héberger de la vidéo sur même la moitié des ventes, c'est pas anodin en fait.
Donc
ça nécessite d'avoir une réflexion technique en amont qui nous permet de.
Alors il faut l'hoster, puis après il faut que ce soit intéressant, interactif, un minimum, parce que tu peux pas juste faire un travelling vidéo pour dire voilà mes produits, quoi.
Oui, bien sûr.
Mais tu vois, nous à l'époque on travaillait pour Longchamp, pour la marque Longchamp, et on avait fait alors c'était en 2012 je crois, donc assez tôt, mais un live shopping sur un défilé. Donc en fait on avait un défilé, et à chaque fois qu'un mannequin passait avec un produit, on affichait le petit lien contextuel qui arrivait pour aller découvrir la pièce, et c'était vachement intéressant. Alors je vais pas trahir de secret, mais ça marchait moyen parce que c'était innovant mais pas transformant, parce qu'en même temps tu peux pas regarder, cliquer, enfin c'est autre chose. Mais c'était intéressant, je trouvais, de remettre aussi de la vidéo fonctionnelle, servicielle, je sais pas comment on peut l'appeler, mais qui du coup est un peu une vidéo augmentée qui marche bien, quoi, parce que c'est intéressant quand tu regardes un défilé et tu dis super, mais alors la pièce, j'ai pas le nom, j'ai pas le truc, j'ai pas de quoi on parle. Faut que je retrouve derrière, quoi. Donc là, c'était un moyen de contextualiser qui était intéressant.
Mais je comprends. Enfin, comment dire. Je trouve que c'est le genre de d'activation ou d'opération qui sont très intéressantes conceptuellement et intellectuellement.
Après.
Mais effectivement, moi, c'est le constat que je fais sur le live shopping. Hein, c'est que c'est intéressant. Ça, il y a des gens qui marchent, qui viennent, qui ça marche et ça. Mais c'est pas rentable.
Pas suffisant. Ouais. Ça, c'est mon côté communicant, tu vois. Alors, en préparant cette émission, tu m'as parlé de showroom buy, showroom for, showroom sport. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu ces sujets-là? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est?
Avec grand plaisir. Déjà, ça s'appelle, ils s'appellent tous showroom quelque chose, c'est pas pour rien.
Forcément.
C'est quelque chose qui dépasse un petit peu les sujets les sujets d'influence, parce qu'on va y venir. C'est, tous ces formats, c'est des formats d'influence. Ça s'inscrit dans une logique un peu plus globale qui a deux enjeux pour moi. Le premier, c'est retravailler l'architecture de marque de showroom privé qui, au fil des années, se construisant de manière organique, a fini par créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques pour plein de sujets, que ce soit des sujets de RSE, que ce soit des sujets d'offres, que ce soit des sujets d'offres B2B, que ce soit des sujets d'offres B2C, etc. etc. Et je pense qu'il y a un enjeu à essayer de simplifier tout ça et de tout ranger sous une bannière qui est une bannière identifiée, qui est showroom. Ça, c'est la première chose. Et je dis showroom, pas showroom privé.
Pas privé, je comprends. Ouais. Privé, c'est la première chose. Le reste, exactement, c'est ce qu'on va découvrir.
Et la deuxième chose la deuxième raison pour laquelle c'est un travail qu'on essaye de faire, c'est que ce mot showroom là, ce nom showroom de showroom privé, il est magique en fait.
Bah oui.
C'est incroyable, il dit tout, exactement. Et en fait, à force de ne le voir qu'à côté de privé, il a presque fini par perdre son sens. Ouais. C'est-à-dire que quand on dit showroom privé comme ça, showroomprivé.com même, base,
c'est un seul mot.
Presque en un seul mot, en fait, on perd le sens que showroom a, alors que c'est, je pense, un élément distinctif très fort. C'est, quand on dit showroom, on a compris, en fait, ce qu'on faisait. Donc bref, en utilisant showroom comme ça, sans imposer, en fait, le surnom showroom, on redonne du sens au mot showroom dans showroom privé. Bref, c'est une petite aparté.
Mais c'est vrai que le mot showroom est très intéressant parce que finalement, c'est un écrin pour les marques.
Exactement.
Sur lequel on vient afficher notre sélection du moment. Et c'est le showroom a cette vocation de bouger régulièrement. Et c'est pas une marque, c'est pas un site de marque. C'est un espace où on met les marques en avant. Et showroom privé, presque le privé, est presque pas dommage, mais il vient faire retomber ce côté.
Alors, je le trouve pas dommage
non,
du tout.
Parce que c'était.
Mais je trouve dommage quand on ne le pense que en un seul mot.
C'est ça. Showroom privé. Mais showroom est un mot magique.
Showroom, c'est un mot génial. Ouais. Et je le dis moins bien que toi. Tu l'as très bien dit.
Non.
Est-ce que tu veux venir travailler dans mon équipe? Non, mais c'est tu l'as très bien résumé. C'est un écrin dans lequel en fait une entité ou une personnalité influente décide de faire une sélection et de la mettre à disposition des gens, éphémère puisque ça tourne. Et c'est en fait ce qu'on fait. Donc
c'est votre ADN.
Exactement. Et donc c'est très important. C'est et d'ailleurs un autre point. Des showrooms, il peut en exister de plein de types, de catégories de produits différentes, en
bien
fait.
Sûr.
On peut avoir des showrooms de fringues, on peut avoir des showrooms de bagnoles, on peut avoir des showrooms de... Bon, en l'occurrence, on vend pas de bagnoles, mais on peut avoir des showrooms de
non, mais tu peux avoir du
technologie,
on peut avoir du multimarque sur un sujet.
Exactement. Voilà. Donc bref, donc c'est très intéressant. Parenthèse refermée. Maintenant, on va se parler de showroom buy, de showroom fort, de showroom sport et de tous les autres. Justement, en partant de ce point de départ du mot showroom, ce que je trouve intéressant, ce que je disais à l'instant, c'est que dans un showroom, il y a quelqu'un, une entité, une équipe qui fait une sélection. Qui fait une sélection et qui la met à disposition de l'audience possible pour cette sélection. Ça, c'est un ingrédient que je trouve intéressant. Deuxième ingrédient qui est intéressant, je disais tout à l'heure que on doit faire venir des gens régulièrement, que le live shopping, c'était un peu dévoyer une partie des efforts que l'on fait pour faire venir les gens sur notre plateforme, puisque en gros, c'est pas suffisamment rentable. Ceci étant dit, on a, je pense, une responsabilité et un enjeu à événementialiser notre plateforme et à proposer des nouvelles expériences, en fait, à nos membres. Et donc, toutes ces initiatives, que ce soit Showroom Buy, Showroom Fort, Showroom Sport, c'est des moyens d'événementialiser, de donner, en fait, de la nouveauté, des nouvelles manières de voir nos sélections à nos membres. C'est le deuxième ingrédient. Le troisième ingrédient, c'est l'influence. L'influence, quand je suis arrivé chez Showroom il y a un an et demi, on peut dire que c'était pas la joie et que c'était un petit peu un moment de turbulent, on va ouais. dire, pour l'influence. Et en fait, ça résonnait beaucoup chez moi avec quelque chose que je me dis depuis très longtemps, et je sais que tu as le même avis sur la question, qui était que petit à petit l'influence s'était dégradée et se résumait presque à du push publicitaire, donc plus de l'influence mais juste comment dire
ce que j'appelle de la tête de gondole.
Ouais, de la tête de gondole,
du placement de produits,
ou de l'homme sandwich si tu veux aller voilà. jusqu'à quelque chose d'encore encore plus dégradant.
C'est moins joli quand même.
Mais ouais. Mais c'est véridique en fait, ouais, quand tu suis un influenceur ou un créateur de contenu et que tu vois passer une marque, deux marques, trois marques. Et donc ça, je trouvais ça très dommage.
Ouais.
Et en fait, Showroom By, qui est le premier dispositif qu'on a lancé, mon objectif avec Showroom By, c'était de répondre à ces trois points. Au point comment est-ce qu'on arrive à continuer à donner du sens au mot showroom, à la notion de showroom, au point de comment est-ce que j'arrive à donner créer une nouvelle expérience pour mes membres, quelque chose de nouveau, etc. Et troisième point, comment est-ce que j'arrive à redonner du sens à l'influence. Et en fait, redonner du sens à l'influence, pour moi, c'est relativement simple. En fait, c'est repartir à l'essence même de ce qu'est l'influence.
Moi, influence.
Exactement. Qu'est-ce que c'est de l'influence ? C'est quelqu'un ou un collectif qui, par la recommandation, oriente une base de gens qui là ou les suivent de par voilà leur, ah. leur
moi, j'ai une définition si tu veux.
Bah vas-y, avec la mienne.
Je l'ai travaillée. Non, pas du tout, mais elle est très proche de la tienne. Très proche de la tienne. C'est plutôt pour moi un leader d'opinion ou un expert qui peut pas être dans plusieurs catégories déjà. Parce que tu peux pas être expert voiture, expert beauté, expert mode, expert tech. Il faut quand même essayer de centrer ton expertise parce que c'est naturel, quelque part. Et qui a une capacité à influencer ou à transformer la vie d'une personne, sur un produit, un service. Et parce que c'est étymologiquement parlant, moi, ce que j'utilisais il y a très longtemps quand on faisait des blogs, c'est ça qu'on cherchait. C'est-à-dire que les filles, beaucoup dans la mode, écrivaient un blog parce qu'elles avaient une passion et elles disaient « j'ai sourcé ça, ça c'est génial, etc. » Et elles faisaient des articles. Et c'est ça qu'il faut que tu...
Mais tu vois, là, il y a un truc que je vois pas dans ta définition, mais que je vois dans ton explication qui suit juste derrière, c'est la partie recommandation.
Oui.
Et en fait, la recommandation, pour moi, c'est clé. Et quand tu mélanges ce truc de te dire, en fait... Retournons à la source de l'influence, qui est la recommandation par une personnalité qui est effectivement un opinion leader, et que tu la mélanges avec, en fait, on a de la chance, on a un showroom, et que tu te dis, faut que j'événementialise pour mes membres, la mayonnaise, elle prend très vite, et tu te dis, en fait, on va filer les clés de showroom à un influenceur et lui proposer, parmi les milliers de produits qu'on a en vente en ce moment sur la plateforme, de créer sa sélection, de créer son showroom, comme il le ferait dans un showroom dans la rue. Donc c'est pas des portants, c'est des vignettes sur la plateforme, mais c'est le même principe. Et donc il va créer sa sélection, et cette sélection, il va la proposer à sa communauté.
Bien sûr.
Ce qui nous permet en plus de faire découvrir notre plateforme à la communauté de l'influenceur, et donc d'aller recruter du membre qualifié, parce qu'en fait c'est des gens qui se sont pas retrouvés sur la sélection de l'influenceur par hasard, mais aussi d'utiliser cette l'influence en fait de cette personne, de le mettre en avant aussi sur nos leviers CRM, aussi en perf marketing sur une audience dont on sait qu'elle est appétente à notre offre, aussi sur nos réseaux sociaux, etc. Et en fait de créer un dispositif 360 mais qui est hyper simple. Un influenceur, on lui dit tiens,
sélection,
fais ta sélection, et ensuite on partage cette sélection auprès de notre audience et de la sienne. Voilà.
Ce qui est vachement intéressant, parce que en fait, tu redonnes un tout petit peu le pouvoir à l'influenceur d'aller faire son sourcing lui-même. Alors, il a un deuxième problème, l'influenceur, c'est qu'il y a tellement de références que faut passer des journées entières
ça
à regarder tout ce
temps,
qui se passe.
Ça prend
donc,
un peu de temps.
Il faut qu'il ait du temps là-dessus, mais c'est intéressant parce que du coup, il est impliqué en même temps.
Exactement.
Et il va faire attention à sa sélection par rapport à ce qu'il aime, ce qu'elle aime, ou ce que peut aimer sa communauté, parce qu'il n'y a pas que son avis, je pense, qui est intéressant.
Parfaitement raison.
Et qui, en même temps, leur redonne un petit peu leur lettre de noblesse, de recommandation et de sélection, parce que C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans les influenceurs aujourd'hui, c'est que tu leur donnes un produit et puis ils le transforment et ils le décodent pour toi, mais avec leurs propres mots. Mais ce n'est pas du marketing comme on peut faire.
Je suis complètement d'accord. Et en fait, tu vois, pour moi, c'était quand on a lancé ce truc-là, donc c'était il y a un an maintenant.
Un an.
Showroom Buy. Donc ça s'appelle Showroom Buy parce que
buy
c'est de l'anglais. C'est...
Showroom Buy, tu nous as dit.
Showroom Buy Intel, Showroom Buy Intel.
Et du coup, ça marche aussi à l'international ou tu l'as fait en France?
Alors, on l'a lancé en Espagne déjà, ça a très bien marché aussi. Donc oui, la conclusion quand même de tout ça, c'est que ça a très bien marché déjà en France. On en a fait trois éditions en 2023, on en a fait une première début 2024, on en a trois autres qui sont prévues déjà dans le pipe pour 2024. Petit à petit, on va continuer à alimenter comme ça. Donc, ça marche très bien, et après on pourra rentrer dans le détail des raisons pour lesquelles ça marchera bien en France, et on en a fait deux en Espagne qui ont très bien fonctionné aussi, et là on va en lancer un en Italie.
D'accord, donc c'est un vrai sujet global, hein, ce qui marche bien, qui a été
exactement, parce que en fait c'est enfin le principe
et même
l'origine de la genèse de l'activation du modèle il est valable sur tous les marchés,
bien sûr,
et donc très fortement localisé avec des influenceurs qui sont pertinents sur les différents marchés, bien sûr. Et après, tu posais la question... Sur Showroom Buy, il y avait un autre point à l'instant que j'ai oublié.
Non, Showroom Buy, c'est une sélection d'influenceurs. Donc, on a X par an qui vont faire
Souviens. Je me souviens, tu parlais du point de tu leur redonnes leurs lettres de noblesse.
Oui.
C'est exactement ça qui me semblait intéressant. C'est qu'en fait, c'était du win-win-win. C'est-à-dire que moi, ça me permet d'offrir une nouvelle expérience qui, en plus de ça, continue à installer Showroom comme étant en fait une véritable définition de mon offre. Pour mes membres, c'est une nouvelle expérience. Ils découvrent des produits, c'est de la curation. Quand t'as plusieurs milliers de produits par jour, c'est difficile de s'y retrouver. Enfin, en tout cas, tout le monde ne s'y retrouve pas. Donc, c'est un moyen d'avoir de la curation, de la recommandation qui est validée, tamponnée par une personnalité qui est pertinente. Et puis pour les influenceurs, c'était un moyen effectivement de faire autre chose que simplement on t'envoie un produit, tu le montes à l'écran et puis tu passes à autre chose. Après, tu l'as dit, ça demande un investissement de la part des influenceurs qui est pas négligeable. Il y a des listes et des listes de marques, puis des listes et des listes de produits parmi lesquels parmi lesquels il faut faire des sélections.
Tu peux nous dire qui t'a fait en 2023?
Ouais, on a plusieurs personnes qui l'ont fait. Les trois derniers qu'on a fait, c'était de mémoire Sabrina Cesari, Léna Situation en fin octobre début novembre 2023.
D'accord.
Très gros succès avec Léna Situation. À la fois en termes de recrutement de followers, en termes de recrutement de membres, en termes de chiffre d'affaires sur la vente qu'elle a pu faire, en termes d'image, on a eu des boosts de notoriété à ce moment-là. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a fait un show by, quelle que soit la taille de l'influenceur avec laquelle on le faisait, de sa communauté, pardon, on a eu des pics de visibilité, de notoriété qui sont quand même assez impressionnants. Léna, évidemment, en particulier. Donc, ouais, très très gros succès. Et on a la première édition de 2024, on l'a faite avec Faustine Bollard.
Très bien.
Sortant un petit peu du
monde de l'influence,
au sens littéral du terme,
personnalité publique,
mais exactement leader d'op, particulièrement pertinent sur notre cible historique, et donc ça a fait un taf assez différent. Là où Léna, ça nous a permis de nous présenter auprès de gens qui nous connaissaient peut-être moins.
De
rajeunir potentiellement un petit peu la base, de recruter des nouveaux membres qui nous découvraient et qui donc découvraient nos offres, etc. Faustine, on a été extrêmement pertinent sur notre cœur de base, on va dire, membres, et donc on a eu des résultats via nos leviers CRM, comme je disais, c'est des dispositifs 360 qui ont été encore plus efficaces que ce qu'on a eu avec Léna.
Mais ce qui est intéressant du coup, c'est que tu vas de l'influence à des leaders d'opinion, à des célébrités, et je pense que c'est effectivement un sujet qui marche dans toutes les sphères, selon tes objectifs aussi, et selon peut-être les marques que tu peux mettre en avant ou l'envie que tu peux avoir, mais de célébrité à même sportif peut-être demain, à influenceur, c'est-à-dire qu'après, tous ceux qui sont un petit peu connus, reconnus, et qui ont fédéré une communauté, t'intéressent finalement, et qui sont pertinents par rapport à ton offre.
Exactement, parce que ces dispositifs qui sont des dispositifs d'influence, en tout cas c'est comme ça qu'on les appelle chez nous, ne se basent pas exclusivement sur la puissance et la communauté des influenceurs. Ce que je disais tout à l'heure, c'est du 360. Donc en fait, en gros, ce qu'on construit, c'est une sélection par une personnalité influente qui ensuite est diffusée auprès de son audience, de sa communauté, mais aussi de la nôtre.
Ouais.
Et donc, on cherche des gens qui sont inspirants, mais on cherche pas que des communautés.
C'est sûr.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Et donc, Faustine Bollard, c'était très intéressant. Et puis, l'enjeu, c'est de composer au fil de l'année une équipe qui va nous permettre de travailler notre base, mais aussi avec Faustine Bollard, mais aussi demain d'aller travailler une base complémentaire, et puis après-demain d'aller chercher une audience plus jeune, et puis après-demain des mecs.
Ta sélection de leaders d'opinion se fait aussi en fonction des marques que tu as au moment où tu lances l'opération.
Alors on y réfléchit dans l'autre sens. Je pars de mon audience et j'essaye en fait d'aller toucher toutes les typologies d'audience qui m'intéressent à toucher avec ce dispositif. Je cale en fait les dates avec les influenceurs en fonction de leur disponibilité tout au long de l'année et en fonction des temps forts pour moi évidemment. Et derrière, on construit avec les équipes commerciales une sélection qui va à la fois, En fait, on construit avec l'influenceur la sélection, mais on met à disposition avec les acheteurs des marques en amont dont on pense qu'elles peuvent correspondre aux influenceurs. Donc il y en a évidemment, on part avec 100 et puis on arrive avec 10. Donc c'est un gros boulot aussi de notre côté.
Vous,
on va chercher à mettre au moment opportun les marques qui sont les plus à même de parler et à l'influenceur et à son audience.
D'accord. Donc ça c'est Showroom Buy.
C'était on va dire l'origine de ces dispositifs d'influence. Comme je l'ai dit, ça marche très bien.
Ouais.
C'est des dispositifs qui sont rentables, à la fois en termes de chiffre d'affaires, mais aussi qui sont très transformatifs en termes d'image, très transformatifs en termes de notoriété, et qui, en plus de ça, font du recrutement. Donc, pour le coup, ça coche à peu près toutes les cases.
Ouais.
Exactement. Et puis, ça nous présente de manière très, à la fois simple et en même temps... précise.
Ouais.
Donc vraiment c'est un dispositif qui un modèle qui fonctionne très bien.
Et là aujourd'hui, si je veux retrouver la sélection de Léna, je peux encore aujourd'hui ou pas?
Alors non, parce que
c'est éphémère. Ah zut.
Mais c'est éphémère comme toutes nos ventes le sont.
Et oui.
Sur des ventes flash.
Eh ben oui.
Et donc en fait, nos ventes, elles durent une semaine. Donc en fait, la sélection de Léna, elle existe plus. Elle existe pendant une semaine. Donc faut être présent. Faut être réactif. Prochaine.
Mais je n'étais pas dans la cible, j'ai pas reçu le mail qui m'a annoncé parce que.
Alors, si t'as pas reçu le mail,
je suis un garçon,
c'est qu'il y a un problème. Je vais en parler avec l'équipe. Mais non, il faut être réactif. Mais c'est aussi la beauté du truc. Et on en parlait tout à l'heure. Le showroom, c'est ça.
Il faut pas rater la bonne affaire.
Exactement. Donc ça, c'était le point de départ. Et puis, comme ça marchait très bien, on s'est un peu posé la question de savoir comment on pouvait en fait continuer à creuser en fait l'influence.
Ouais.
On l'a fait. Plusieurs manières, on a beaucoup de choses dans le pipe, mais la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a répliqué ce modèle pour un autre engagement qui tient beaucoup à cœur de la boîte et à moi personnellement, qui est notre engagement sociétal. On a une cause, on va dire, un peu transversale qui nous anime et qu'on essaye de soutenir via notre fonds de dotation déjà, parce qu'on a un fonds de dotation qui soutient des associations, mais aussi quand on le peut directement via des dispositifs qui nous permettent de récolter des fonds pour des associations. Et cette cause, c'est la cause des femmes au sens très large du terme. Déjà parce qu'on a beaucoup de femmes qui sont clientes, mais aussi beaucoup de collaboratrices qui sont des femmes. En tout cas, l'ADN de Showroom s'est construit comme ça. Et donc, on s'est dit qu'une
bonne manière en fait de mettre la puissance de ce qu'on avait créé avec Showroom By à disposition d'associations, c'était peut-être de faire un petit spin-off qu'on a appelé Showroom Fort.
D'accord.
Et donc là, l'idée, c'est plus de tout miser sur la curation d'un influenceur, mais c'est plutôt de se dire, on va faire une sélection avec une célébrité, en l'occurrence. Mm-hmm. Et je reviendrai là-dessus juste après. Mais cette sélection, sa particularité, c'est que l'intégralité des bénéfices qui vont être faits sur cette sélection sera reversée à une association. Et donc, pour la journée du 8 mars, par exemple, on a fait Showroom for Solidarité Femmes, qui est une fondation, c'est pas une association, fondation, que l'on accompagne et qu'on essaye d'accompagner de plein de manières différentes, notamment via des dons. Et en l'occurrence, l'idée, c'était donc de trouver d'autres moyens de pouvoir financer leurs actions. Alors, ouais. Solidarité Femmes, c'est une fondation qui a créé le 3919, mm-hmm. qui est le numéro de téléphone que les femmes peuvent utiliser quand les femmes battues peuvent utiliser pour alerter. Entre autres, mais ils ont beaucoup d'actions au travers de la France. Et donc, ce showroom fort, c'est exactement le principe qu'un showroom buy, c'est les mêmes codes, sauf que ce qu'on met en avant avant tout, c'est la fondation, l'association, puisque au-delà de nous permettre de récolter des fonds en plus, c'est aussi un moyen de donner de la visibilité.
De les mettre en avant, oui.
Exactement. Et cette année, on l'a fait avec Caroline Vigneault, je sais pas si tu connais, qui est une humoriste, ancienne avocate, humoriste,
engagée.
Très engagée. Voilà. Et donc, et c'était formidable de le faire avec elle. Elle est vraiment formidable, Caroline Vigneault. Et donc, elle a joué le jeu, elle a fait sa sélection. Et cette sélection, voilà, les bénéfices ont été reversés à la fondation Solidarité Femmes.
Très bien. Donc, ça en fait deux. Bye, fort.
Ouais.
Et le troisième.
On continue?
Bah, je sais pas. On finit sur sport. C'est ça? C'est celui-là?
Sport, c'est quelque chose qu'on a lancé plus récemment. Le point de départ, il est un petit peu différent. Le sport, c'est pas forcément le sport. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la catégorie sport, c'est une des catégories qui est le plus en croissance en 2023. Donc, on a un vrai enjeu commercial en fait sur le sport.
Ouais.
Historiquement, c'est pas forcément une catégorie sur laquelle on est identifié. On a des offres sport, évidemment. On a fait d'ailleurs des très bons chiffres en 2023 sur le sport. Mais on n'est pas aussi naturellement identifié sur le sport qu'on peut l'être sur d'autres catégories comme le prêt-à-porter, et notamment le prêt-à-porter femme. Et donc, on avait un enjeu qui était un enjeu à la fois de notoriété, de faire connaître, en fait, notre offre sport, mais aussi un enjeu de crédibiliser notre offre sport.
Ouais.
En fait. Et donc, le point de départ, il est un petit peu différent. Et ce qu'on a essayé de créer en fait avec notre offre sport, ça part de quelque chose qui est pas de l'influence à proprement parler, puisque l'idée de départ, c'est de se dire en fait notre offre sport, non seulement elle existe, mais aujourd'hui il y a des gens chez Showroom qui sont ultra investis dans cette offre parce qu'ils sont eux-mêmes des sportifs et des fans de différents sports. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est la première chose à faire, c'est de montrer ça, quoi. Et c'est d'aller chercher dans nos équipes les gens qui sont effectivement passionnés de sport et qui au quotidien en fait vont chercher et composent nos offres. Et donc c'est des gens qui sont à la fois du côté des achats, mais pas que. Il y a des gens dans les équipes marketing, il y a des gens dans les équipes RSE, il y a des gens dans les équipes, enfin il y en a médias, etc. Il y en a partout. Et donc on a créé une crew. En fait, de sportifs de chez Showroom qui représentent en fait les différentes disciplines. Et donc, on a eu Showroom Ski qui était une sélection d'articles dédiés aux sports d'hiver qui a été représenté par un mec de mon équipe qui s'appelle Michael. Parce qu'il est passionné de ski et parce qu'en fait, tous les jours, il allait voir les acheteurs, il disait mais qu'est-ce qu'on met dans cette sélection ski? C'est quoi les bons articles? Qu'est-ce qu'on a de bien? Il faudrait qu'on ait ça, etc. Et donc voilà, ça, on s'est dit, mais il faut qu'on le dise. C'est pas possible que les gens ne nous considèrent pas autant sur le sport qu'ils peuvent nous considérer sur autre chose. Alors même que, en fait, il y a des gens qui sont passionnés en interne.
Et donc voilà, ça c'est la première partie de l'équation. La deuxième partie de l'équation, c'est ok, c'est cool. Ça montre qu'on est vraiment investi. Maintenant, il faut aussi qu'on le fasse connaître à des gens qui nous connaissent, qui n'ont pas en fait de contact direct avec nous nécessairement sur ces sujets-là, parce qu'ils nous considèrent pas aujourd'hui sur le sport. Et donc là, on s'est dit, est-ce que ce serait pas intéressant de créer des binômes en fait entre nos sportifs chez nous et des influenceurs sportifs, et qu'en fait ces binômes ils se rencontrent sur leur passion commune qui est le sport, et ce qui nous permet en plus de cautionner, d'avoir une caution extérieure au-delà de nos collaborateurs pour venir valider la cohérence et la pertinence de nos sélections. Et donc est né Showroom Sport, qui est donc un univers carrément chez nous de sport, qui est événementialisé mensuellement avec des nouveaux sports qui sont mis à l'honneur. Donc ça dépasse l'influence, hein, c'est vraiment un coin de notre plateforme.
C'est une vraie thématique mensuelle,
coin de notre plateforme.
On change de sport tous les mois.
C'est même plus que mensuel, c'est toute l'année, mais oui, mensuellement, on vient mettre à l'honneur un sport.
D'accord.
Et au moment où on met à l'honneur ce sport, on a un collaborateur chez nous qui compose, défend sa sélection, la présente, etc. Et qui défie un sportif influenceur pour faire rayonner en fait, pour faire rayonner cette offre. Et donc pour le ski, on a eu la chance de travailler avec Mathis Dumas, qui est un influenceur qui fait du ski freeride et qui fait des contenus absolument magnifiques au passage, et qui a été défié donc par Michael sur ses terres à Chamonix, et ça a donné un contenu qui est magique, parce que Mathis Dumas, il fait des contenus qui sont magiques, et un défi qui était magique, à tel point que j'étais vraiment dégoûté de pas être
de pas être
le référent ski de Showroom Sport, voilà. Et ça a aussi très très bien marché. On l'a utilisé exactement de la même manière, en fait, ces contenus qu'on a créés, cette collaboration qu'on a faite avec Mathis, et entre Mathis et Michael, en fait ça nous a permis de faire une mise à l'honneur du ski à 360, donc sur nos leviers CRM, en influence évidemment, sur les réseaux sociaux, mais aussi en performance, donc via du pay social et du display.
Ce qui est intéressant à travers les trois sous-marques, c'est que du coup tu éditorialises vachement, de plus en plus en tout cas, le contenu, la thématique, avec des référents dans ces sujets-là. Est-ce que tu crois que ça, c'est un sujet d'éditorialisation? Parce qu'aujourd'hui, finalement, au début, c'était le prix. Maintenant que j'ai le prix, que j'ai le catalogue produit, alors j'ai le sourcing qui est fait par vos équipes et qui est fait en permanence, quoi, pour le coup. Mais tu crois que l'éditorialisation va être la clé de succès quand même de Showroom?
C'est intéressant parce que pour moi, je le vois pas que comme de l'éditorial. Enfin, c'est de l'éditorialisation, oui, tu as raison, mais je le vois plutôt comme de l'événementialisation et de la recommandation.
Ça va ensemble.
Ouais. Mais si tu veux, quand j'y pense, quand on le pose,
tu penses pas contenu,
on pense pas contenu éditorial.
Ouais, tu le vois multiforme.
On pense événement et on pense sélection, recommandation.
Ça, c'est Media Arts.
Tu vois? Ouais.
On retombe sur Media Arts.
Trop pragmatique peut-être, mais c'est comme ça qu'on le réfléchit. Showroom Buy, c'est ça. Ouais. Showroom Fort, c'est ça. Showroom Sport, c'est ça aussi. Et spoiler ce qu'on a dans le pipe, mais
allez,
on risque d'avoir des sujets de voyage qui risquent d'arriver.
D'accord.
On risque
de loisirs, on va dire au-delà
exactement,
que du produit.
On risque d'avoir des sujets maison aussi qui vont arriver, parce que je pense que en ce moment en particulier, l'influence a un rôle prépondérant dans la recommandation, la recherche qu'ont les consommateurs de home déco, dans une démarche qui en plus de ça est très très chamboulée par rapport à la manière que les gens avaient de réfléchir à leur intérieur, qui était très dictée par les déménagements et les emménagements plutôt dans des nouveaux lieux, etc. Aujourd'hui tout est grippé, aujourd'hui les gens pendant le Covid se sont suréquipés, donc on est dans une dynamique qui est très différente, qui est pas dans une dynamique de besoin, mais qui est dans une dynamique d'envie, de se créer un cocon, de se créer une maison à son image, une pièce à son image, etc. Et ça, je trouve que le rôle de l'influence dans cette démarche, il est primordial. Et donc voilà,
donc
on est en train de réfléchir à ça pour le construire de manière encore une fois pragmatique. D'événementialiser et de recommander, tu vois.
Bah oui.
Et pas d'éditorialiser tant que ça, en fait.
Ouais, ouais. Non.
Le fait est que ça éditorialise.
Ouais, au final, en fait, c'est ce que moi je retiens, entre guillemets, c'est parce que ça crée une couche supplémentaire à la sélection de produits que tu peux avoir, qui la rend plus lisible quelque part ou plus facile à décortiquer, mais qui passe par du contenu, qui passe par des publications, etc., mais qui est une publication 360 pour le coup. Qui fonctionne partout, quoi.
Exactement. Et pourquoi est-ce que je fais une différence avec l'éditorialisation? Tu vas te dire que je suis chiant. Je j'arrive pas à sortir de ce mot, mais aujourd'hui, en tout cas, on ne fait pas d'éditorial pour juste faire du contenu.
Oui.
À aucun moment. Objectif,
ouais.
Non, à aucun moment. En fait, quand on prend la parole pour recommander, pour apporter des solutions, etc., on le fait toujours avec une vision qui est une vision sélection et avec une vision qui est une vision événementialisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des recommandations qu'on ne pourra pas trouver chez nous derrière, en fait.
Okay.
Parce qu'on pense que c'est un peu notre mission aussi d'aider les gens à naviguer dans notre sélection, de leur faire des propositions, de les inspirer au quotidien.
Donc là, tu reviens à l'essence du showroom.
Exactement.
Où t'as une hôtesse qui t'accueille, qui te fait découvrir l'ensemble du showroom dans toute sa splendeur.
Exactement. Tu vois, on retombe sur
nos pattes. On retombe sur showroom, c'est bien.
Une sorte d'obsession. Bon,
l'épisode n'est pas sponsorisé par showroom. Je précise. Mais ce sont des sujets qui sont passionnants et en même temps, j'ai la chance d'avoir Albert qui a fait aussi de la com et donc c'est intéressant d'échanger sur ces concepts-là. Revenons un peu à l'influence. Donc, l'influence, j'ai compris que c'était assez majeur. Depuis ton arrivée, en tout cas, sur l'ensemble des touchpoints. Aujourd'hui, au-delà de ces ventes événementielles, vous faites aussi de l'influence, je vais pas dire au code promo, mais de l'Always On, avec des influenceurs qui sont des ambassadeurs de la marque quelque part à l'année.
Alors, on en fait.
D'accord.
On en fait, et j'ai deux réponses dans la réponse.
Ouais.
Trois même, pardon. Ouais, désolé.
Très bien.
On n'a pas fini. J'ai trois réponses dans la réponse. On a, ça va être le plus long podcast
le plus long
jamais
podcast
fait.
Qu'on a jamais
fait. La première réponse, c'est que oui, on a des influenceurs, qui restent des macro-influenceurs.
Okay.
Avec lesquels on travaille régulièrement. Mm-hmm. Et qui viennent, qui nous permettent de ponctuellement mettre en avant des ventes. Entre autres, mais aussi qui nous permettent d'entretenir notre communauté de followers sur nos réseaux sociaux, etc. Ça, on va dire que c'est le basique. On a une deuxième partie qu'on a développée depuis le milieu de l'année 2023, qui est une partie créateur de contenu. Mmh. Donc, on est sur du micro-influence. On n'est pas vraiment sur de l'influence, on est plus sur du créateur de contenu.
D'accord.
Qu'on mobilise pour nous aider à créer du contenu innovant et adapté en fait aux différentes plateformes que derrière on réutilise à la fois sur nos réseaux sociaux mais aussi potentiellement sur notre plateforme.
Ouais.
Donc ça, c'est le deuxième ingrédient, c'est de la micro-influence, mais on va chercher des gens pour leur talent, pour les images qu'ils sont capables de nous produire, pour les contenus qu'ils sont capables de nous produire, etc. Ça commence à marcher bien, et on commence à en tirer des vrais bénéfices. C'est une grosse machine à mettre en place, hein, parce que si on veut avoir suffisamment de contenu, on fait beaucoup en interne, pas que, mais on fait beaucoup en interne, c'est un gros boulot des équipes. Et le troisième, c'est celui sur lequel... je me casse les dents. Pour l'instant, on n'y arrive pas. On n'a pas craqué le modèle. C'est du système de parrainage à grande échelle avec de la micro-influence. J'y crois énormément. Pour l'instant, j'ai pas réussi.
Donc, appel à témoin. Ah, c'est lui qui a la réponse.
On a quand même essayé beaucoup d'approches et pour l'instant, on n'a pas craqué le modèle. On est en train de lancer un nouveau format, là, plus simple sur les rewards, etc. Ouais. Parce que je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. Et je pense que notre système de reward parrainage, il est, d'une part, il était similaire, que ce qu'on soit micro-influenceur ou qu'on soit membre classique. Je pense que ça marche pas. Et d'autre part, il est c'est peut-être un tout petit peu compliqué à utiliser quand c'est fait à grande échelle. Donc on est en train de basculer sur un nouveau modèle qui est un modèle qui est adapté au micro-influenceur. Voilà, on retente le coup. Et tant qu'on n'a pas craqué le truc, de toute façon, on lâchera pas l'affaire.
J'ai compris ça. Donc du coup, tu prends des micro-influenceurs. C'est quoi pour toi un micro-influenceur? C'est entre 10 000 et...
Ouais, même pas, ça peut être même moins que ça. En fait, puisque de toute façon, l'objectif, c'est de récompenser en fonction du recrutement de membres et de...
Je sais pas, de... Okay, donc tu prends des petits influenceurs qui eux-mêmes vont faire du parrainage.
Exactement.
Et là, tu penses en avoir beaucoup, donc forcément...
Ça va être un gros boulot.
Un gros vivier, en tout cas.
Ouais, ça va être un gros boulot. On est en train de voir ce qu'on fait en interne, ce qu'on externalise, etc. Je te dis, on est en train de tester déjà, avant de commencer à se lancer à grande échelle, on est en train de tester le nouveau format. Et on verra, mais j'y crois beaucoup à ça.
Tu regardes un peu les formats Amazon influenceurs, programmes, qui sont des programmes un peu similaires quand même.
Exactement. C'est exactement ce modèle-là.
Ouais.
À ceci près que tout le monde connaît Amazon.
Oui.
Alors que tout le monde connaît pas encore Showroom, je pense. Ouais. Donc il y a une vraie. On en revient à l'origine de l'influence. Je trouve qu'il y a un vrai. Rôle de prescription, de recommandation quand un influenceur recommande Showroom. Alors oui, on a 21 millions de membres, donc c'est beaucoup, mais il n'empêche que on a encore des gens qui ne nous connaissent pas ou ne nous considèrent pas peut-être.
Ouais. Après, si tu veux, c'est vrai que moi je vois dans ce modèle-là aujourd'hui ce qui fonctionne, mais ça c'est une réflexion très personnelle, mais je crois qu'il y a du produit et de la prime. Ce qui est aujourd'hui, et peut-être ce qui vous manque, c'est le produit. Parce que Amazon t'envoie des produits, tu testes, tu mets, et tu deviens influenceur parce que t'as ton code de promotion, enfin ton code d'affiliation.
Alors le fait est qu'on a aussi essayé ça.
Essayé ça.
Mais on a une problématique qui est la vente flash.
Bah oui.
Qui est que entre le moment où j'ai envoyé le produit et le moment où l'influenceur peut en faire pour en faire la promotion, il est plus disponible chez moi. Donc en fait, c'est vraiment le modèle qu'il faut faire rayonner. Ouais. C'est pas tant l'offre à proprement parler. Et l'offre, ça pour le coup, je vous le garantis.
Ouais, ça c'est sûr.
Elle est bonne. Ouais. Elle est même canon, l'offre. Le boulot qui est fait par les achats, il est absolument formidable. Il y a de plus en plus de marques vraiment top à des prix qui sont vraiment, vraiment décotés.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je pense que un de mes enjeux en influence et sur les réseaux sociaux dans les mois à venir, c'est d'expliquer le modèle. Parce qu'en fait, c'est tellement, notre modèle. C'est tellement, des belles marques à des bons prix que, je me demande parfois si les gens y croient, si les gens n'ont pas des doutes sur la manière, dont on a réussi à obtenir ces prix-là.
Ouais. Bah, après, c'est vrai qu'il faut expliquer parce que c'est...
Il faut l'expliquer, ouais.
Si tu le dis pas, personne ne le dira. Je pense, normalement. Donc, influenceur à fond. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que je pense qu'effectivement, tu mets en place l'influence 360 qui aujourd'hui fait sens parce que le marché est prêt, parce que les audiences sont prêtes, et que les influenceurs ou créateurs de contenu ont un certain niveau de pouvoir aujourd'hui qui est intéressant et qui permet justement de les exploiter. Alors juste, enfin, exploiter, c'est pas le mot, mais de les considérés à leur juste valeur et ils sont pas simplement des passe-plats Instagram et qui sont des personnalités en tant que telles et qui peuvent du coup rayonner sur beaucoup de touchpoints qu'on peut avoir en marketing. Et ça, c'est, je pense, la vraie année 23-24 là où je sens que les marques sont prêtes à faire plus que ce qu'on faisait basiquement, pas basiquement mais qui était déjà vachement bien, mais qui était peut-être le niveau 2-3 de l'influence qui aujourd'hui veulent aller plus loin. Parce que ça, ils ont validé un modèle, ça fonctionne, et ça va fonctionner encore, parce que quand tu vois les audiences, elles sont sur les réseaux, elles suivent les personnalités, et nous on parle de gens qui n'ont pas connu, qui ont connu Internet et les réseaux, mais toute la nouvelle génération qui arrive est quand même assez, achète sur Insta, sur TikTok,
clairement.
Etc.
Clairement.
Tiens, en termes de plateforme, vous êtes sur quoi? Instagram?
Alors, on est sur beaucoup de plateformes. Historiquement, Showroom était très fort sur Facebook. Aujourd'hui, on est, je pense, très fort sur Instagram. On a lancé TikTok quand je suis arrivé, puisque ça n'avait pas encore été lancé.
très objectivement, je pense qu'on n'est pas encore suffisamment fort sur sur TikTok. On n'a pas encore complètement passé la seconde, on va dire, sur le réseau. C'est un de mes enjeux pour 2024. Je sais pas si ça va être le réseau qui sera le plus héroïste en 2024, mais en revanche, il n'est pas exclu qu'il le devienne à terme, et donc il faut absolument qu'on soit présent. Et après, il y a des verticales sur lesquelles on exploite d'autres réseaux, notamment Pinterest pour la maison, par exemple, qui est un réseau qui commence à devenir assez central dans nos prises de parole. Pinterest, je le considère comme un réseau un peu à part, puisqu'on est à mi-chemin entre le réseau social et l'outil de search. Et en tout cas, la démarche que l'on a dans l'utilisation du réseau, c'est celle-là. On l'utilise pas comme une régie publicitaire classique. Notre enjeu, c'est vraiment de l'utiliser comme un outil qui permet de faire de la curation et donc qui nécessite d'être updaté très régulièrement avec nos offres pour permettre aux gens en fait de composer à partir des offres qu'on a à leur disposition. Et on fait pas mal même de Snapchat aussi sur du recrutement, sur de la techno, ça nous aide à présenter, je pense, Showroom de manière
un peu différente, quoi.
Un peu différente, ouais. Moderne, etc. Donc c'est un réseau qui est aussi intéressant. Mais l'endroit sur lequel on est le plus fort, indéniablement pour l'instant, c'est Instagram.
Ouais. Après, ça reste assez transgénérationnel aussi, c'est-à-dire que tu as, à mon avis, ton audience qui s'y retrouve bien.
Exactement.
Et en fonction après des cœurs de cible et des segments, tu peux aller un peu Snapchat, un peu Pinterest.
Exactement.
Si en plus tu te lances dans la déco, Pinterest est encore toujours un des bons.
Ah ouais, Pinterest sur la déco, ça marche très très bien.
Ah ouais,
et après, ce qu'on essaye surtout, hein, c'est de ne pas faire du contenu trans-plateforme. Donc en fait, en gros, quand on s'attaque à une plateforme, et c'est pour ça qu'on peut pas tout attaquer en même temps.
Non.
Quand on s'attaque à une plateforme, on le fait dans les codes de la plateforme.
Très bien. Aujourd'hui, tu dirais que... Alors, Twitch, c'est pas un truc que vous avez regardé ?
Pour l'instant, non. Je pense que c'est encore un tout petit peu éloigné de notre base membre.
Ouais. Aujourd'hui, quand tu fais tes campagnes d'influence, tu mesures un KPI, j'imagine, donc ton ROI. Tu le calcules pas que sur le chiffre d'affaires ou que sur le chiffre d'affaires généré ?
Alors, évidemment pas que sur le chiffre d'affaires.
D'accord.
Et ce serait, je pense, une erreur que de vouloir à tout prix... faire du chiffre d'affaires avec, en tout cas à court terme, de l'influence. L'influence, on y met beaucoup, comme on la traite à 360, on y met beaucoup d'espoir et donc de KPI.
D'accord.
Les KPI en question, si je dois résumer de manière très simple, on a un KPI de trafic.
Mm-hmm.
Un KPI d'impression. Déjà, sur les réseaux sociaux, au sens global du terme. Quelle a été la visibilité de notre prise de parole ?
Bien sûr.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour rester un peu dans cette logique, on a un contrat avec YouGov, donc on suit aussi l'évolution de notre brand index. On a un KPI qui est un KPI de notoriété.
D'accord.
Ça, c'est les deux premiers que l'on suit. Ensuite, on a un KPI qui est un KPI de trafic. Qu'est-ce que ça nous a permis de générer comme trafic entrant, tout levier confondu. Donc l'influence en elle-même, les réseaux sociaux, le paid social, le display, le CRM. Qu'est-ce que ça nous a permis de générer comme clic entrant chez nous. Et ça, c'est crucial. Ensuite, on a un KPI qui est un KPI de chiffre d'affaires, qui peut être calculé soit sur la base de ce qui a été généré dans la vente en elle-même, soit sur le chiffre d'affaires qui a été généré par des membres ou des non-membres qui sont rentrés par les contenus qui ont été faits avec l'influenceur en question. Ensuite, on a des KPI qui sont des KPI de recrutement. Recrutement de nouveaux membres, de nouveaux acheteurs, et puis des recrutements de followers en fonction de la plateforme qu'on aura décidé d'activer.
Ouais.
Voilà. Donc c'est assez complet.
C'est assez large, ouais.
Ouais, c'est assez complet. Mais ça nous permet d'avoir un dashboard qui est un dashboard très objectif sur le succès réel
de nos prises de parole, on va dire 360 influences, qui nous permet en plus de, en fonction des profils qu'on va activer, d'aller chercher KPI force. Différents potentiellement parmi tous ces KPI, ou en tout cas de mettre le focus sur ces KPI différents, ce qui nous permet de créer à l'année en fait une vision qui est une vision globale en fait, ouais. Ce qu'on a réussi à faire. Et puis et surtout, pourquoi est-ce qu'on a tous ces KPI? Parce qu'en fait, on se rend compte que ça nous permet de nourrir tous ces KPI en fait.
Ouais.
Après, quand on fait du chiffre d'affaires, notre enjeu c'est pas d'aller chercher le chiffre d'affaires le plus élevé, mais c'est de au minimum rentrer dans nos frais avec une vision rentabilité, donc avec une vision marge. Bien pas sûr. Rentrer dans nos frais pour ouais, juste générer juste le chiffre d'affaires. Chiffres. C'est est-ce que mon chiffre d'affaires il est suffisamment élevé pour que l'investissement que j'ai fait il soit au minimum rentable.
Ouais.
Et pour l'instant, je touche du bois, mais on arrive à être performant sur l'ensemble des KPI et transformatif même sur l'ensemble des KPI. Différemment en fonction des profits, ce que je disais tout à l'heure à propos de Faustine versus Léna, mais le fait est que c'est transformatif sur tous les touchpoints, donc ouais. Sur tous les KPI, pardon. Donc voilà, pas de raison de pas les suivre.
Ouais. Mais tu vois ici, nous, on travaille des influenceurs quand on a des marques qui viennent nous voir sur des trois critères en fait. T'as ceux qui font voir, ceux qui font vendre et ceux qui font venir. Donc en fonction après de l'objectif, on sait aussi nous mesurer la performance de l'une ou de l'autre ou de l'un ou de l'autre en fonction de l'objectif qu'on a. Et c'est ça, je pense, qui est intéressant pour toi aussi parce que c'est des leviers marketing que tu peux activer quand tu as besoin de visibilité sur une marque, bah, tu sais qui potentiellement activer. Quand tu veux générer des ventes, bah, tu sais aussi qui activer. Alors, même s'ils font tous les trois, et mais il y en a qui performent plus que d'autres.
Mais donc, en fait, on dit la même chose.
Ouais.
Tu le dis de manière plus simple que je vous ai raconté avec mes KPI. Mais c'est exactement ça, en fait. Les trois couches de KPI que je t'ai montré, c'est exactement les trois couches dont tu parles. Donc, c'est parfaitement aligné. En revanche, la seule peut-être différence, c'est que même quand je vais activer un influenceur que je vais chercher pour faire de l'image,
il va faire des ventes aussi.
En tout cas, moi, je ne veux pas sacrifier le fait que les ventes permettent de rentrer dans nos frais.
Bien sûr.
En fait, c'est quelque chose qui est très important et qui est une culture aussi. Ouais.
Mais tu surponds en tout cas le talent fait, par ce qu'il s'est
Je peux juger de sa performance au regard de ce qu'il a réussi à faire plus sur l'image, mais il faut qu'au minimum il soit capable de me faire rentrer dans les frais. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'en fait, c'est des dispositifs qui sont quand même assez
coûteux. Ouais, bien sûr.
Et en fait, plus on est capable de mettre en place ce genre de système, plus on est capable de se libérer du budget à terme pour pouvoir activer comme on
veut. Non, et puis toi, t'as la couche globale. C'est-à-dire que tu vends, alors que nous, on a des marques qui sont essentiellement non commerçantes, entre guillemets.
Et donc, c'est beaucoup
plus
difficile.
Qui ne vendent pas, ils ont des budgets dédiés sur l'image.
Exactement.
Donc. Le ROI est un peu moins
J'en ai aussi, mais tu vois, c'est marrant, je mets pas l'influence dedans.
Ouais.
L'influence, elle est pas dans mon budget image.
Ouais.
L'influence, elle est à un budget à part, qui est un budget qui est à la fois tout ce pour travailler l'image, mais aussi.
Et tu rentres un peu d'image quand même,
Bien sûr. Évidemment, et c'est pour ça qu'un de mes KPI, c'est la notoriété, et c'est et voilà.
Mais il rentre pas dans le budget image.
Mais il rentre pas dans mon budget image, parce qu'en fait, celui-là, il doit être au minimum rentable.
Ouais. Voilà. Je comprends.
Enfin, en tout cas, je dois pouvoir le calculer. Non, mais sinon, exactement. C'est trop cher pour que ça.
Non, c'est très bien. Passons sur un focus marché, influence.
Ouais.
On sait que l'influence est un, alors, moi, ça fait 15 ans que j'ai l'agence, 20 ans que j'en fais. Aujourd'hui, c'est cristallisé sur l'influence. Il faut en faire, c'est stratégique, etc. Côté marque, de ce que j'entends ici, c'est que c'est quand même un peu le bazar. Côté marché, en tout cas, quand je veux... Alors, je suis convaincu que je fais de l'influence. J'ai des équipes monopolisées, mais qui peuvent pas tout faire. J'ai besoin d'un partenaire. Quelle est, toi, ta vision du marché de l'influence? Parce que c'est assez éclectique.
C'est un marché qui est très... C'est un marché qui est ultra dynamique. Donc, c'est un marché qui est un petit peu compliqué à appréhender en tant que marque parce que le paysage change... à peu près aussi vite que les influenceurs changent. Donc en fait, il y a des nouveaux acteurs tous les mois et donc je trouve que c'est pas facile d'avoir une vision exhaustive du marché. Donc ça c'est la première chose.
En même temps, ça veut dire aussi que ça permet de rencontrer des nouvelles têtes, des nouvelles manières de penser, oui. Des nouvelles manières de
présenter. Il y a l'offre, l'offre présente, ça serait pas
exactement.
Mal.
Exactement. Et ça pousse, je pense, les acteurs plus historiques dont tu fais partie ouais. à se renouveler constamment. Ah, donc en fait, je pense que c'est une bonne chose que ce marché soit aussi dynamique que ça. C'est pas facile à naviguer pour un annonceur, mais c'est une bonne chose.
Ouais.
Ça, c'est pour le contexte global. Après, l'influence, c'est une matière qui, par essence, est très opportuniste. Opportuniste de la part des influenceurs, je pense, qui, en fait, se retrouvent avec des notoriétés qui construisent, évidemment, hein, c'est pas quelque chose qui leur tombe dessus du jour au lendemain, mais ils construisent des notoriétés et ensuite, il faut qu'ils arrivent à en tirer la bonne opportunité, ce qui est parfaitement normal et légitime. Donc ça, c'est une partie de la raison pour laquelle c'est opportuniste. Je pense aussi que les réseaux sociaux sur lesquels l'influence s'exprime en priorité sont des réseaux qui sont eux aussi opportunistes. Il y a qu'à voir la manière dont les trends arrivent et repartent pour se dire que en fait, pour être pertinent sur un réseau, il faut rentrer dans la trend, donc il faut être opportuniste. Ça, cette logique qui demande une réactivité folle, une compréhension parfaite de ce que sont les tendances, etc. À mon sens, elle a formaté une partie des esprits qui aujourd'hui accompagnent les annonceurs dans de l'influence autour de cette logique d'opportunité. Parce que c'est les codes qui marchent. Enfin, c'est comme ça, en fait.
Ouais.
Il faut être.
Ils sont les experts des plateformes.
Il faut être réactif. Exactement. C'est des experts des plateformes. C'est des experts qui sont presque plus médias. Qu'autre chose, on en revient à Media Hearts Lab. Et en fait, et c'est une expertise qui est indispensable si on a envie de bien gérer sa marque et sa visibilité sur les réseaux sociaux. Mais le pendant de ça, je pense, c'est que beaucoup de partenaires, d'agences qui sont ultra experts de leurs médias, des tendances de leurs médias, on donne la priorité à cette réactivité et à cet opportunisme qui est voulu par ces médias, encore une fois, versus une réflexion stratégique, on va dire, de fond sur les problématiques business et marketing des marques. Et aujourd'hui, j'ai souvent l'impression qu'on a deux cultures qui ont parfois du mal à s'imbriquer, en fait.
Ouais.
Et on a du mal, pour dire les choses autrement, à faire en sorte que l'opportunité vienne répondre précisément à la problématique stratégique ou aux besoins stratégiques de la marque. Stratégique de fond, en fait. Pas stratégie média, stratégie
de marque. Ouais, de marque.
Exactement. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est encore compliqué d'arriver... Alors, on y arrive, hein, évidemment, et il y a des partenaires qui sont excellents dans leur domaine, qui connaissent parfaitement les réseaux sociaux, parfaitement les opportunités, etc., et qui sont en plus très ouverts aux échanges et aux discussions pour faire coïncider l'opportunité que représentent les réseaux sociaux avec le besoin stratégique. Mais je trouve que c'est pas encore ultra naturel, et en tout cas c'est souvent pas complètement intégré du côté des agences d'influence. Mais je suis sûr que c'est quelque chose qui est en train de se construire, de se créer petit à petit, et que c'est aussi parce que c'est des agences qui pour beaucoup sont assez jeunes, en fait.
Ouais. Et en même temps, toi tu parles beaucoup d'agences, mais ce sont des agences de talent.
Oui, bien sûr, c'est des agences de talent.
Ouais. Évidemment. Et qui est pour moi, on doit faire le distinguo entre une agence conseil.
Ah oui, t'as raison.
Experte réseaux sociaux, influence.
T'as raison.
Et une agence talent qui a pour objectif de connaître les plateformes, de connaître ses talents.
Tu as raison.
Et de les vendre.
Tu as raison. Mais
ils essayent tous.
Bien sûr.
La partie agence. Je crois qu'il y en a une qui a, bon, pas mal essaye, mais n'arrive pas à transformer parce que c'est pas le même, les mêmes gens. C'est pas les mêmes compétences. C'est pas le même métier. Et quand tu fais 90% sur de la commission talent,
c'est sûr que c'est pas ta priorité.
Que de faire du conseil, en fait. Ce qui demande aussi une expertise, des profils différents en termes de collaborateurs. Il faut pas mal d'agences de talent avec qui on travaille. Ils sont assez jeunes, mais c'est super parce qu'ils ont une super énergie, ils connaissent les plateformes, comme tu viens de le dire, mais il manque cette couche d'expérience. Alors que nous, on a, ce qui est plutôt bien pour les marques, parce que du coup, les marques sont ravies, parce qu'on a l'expérience, on a le conseil, on sait lire des plateformes de marques, et on comprend mieux les marques que les marques, des fois, parce que c'est notre métier. Et ensuite, on s'entoure d'agences de talents en fonction du plan qu'on a mis en place pour aller chercher les bons talents, où on va avoir les talents directs. Et ça, des fois, moi, je sens que c'est ce côté conseil que les marques font, des fois, bypass, en prenant en faisant des campagnes que j'appelle des campagnes casting.
Ouais.
Et pas des campagnes.
Et pas des campagnes qui.
Marketing comme on peut l'entendre, tu vois. Parce que des fois, c'est le niveau qui saute dans la recommandation. C'est j'ai travaillé avec machine. Et c'est pas j'ai fait une campagne sur tel sujet. Mais c'est intéressant aussi parce que finalement, moi, ce que je trouve en tout cas hyper intéressant pour moi ici à l'agence, c'est une opportunité majeure de rentrer comme étant l'acteur conseil. Et quand je regarde tout le marché, 90% c'est du talent et 10% un peu moins, un peu plus. Après, beaucoup de grandes agences en font aussi, mais du coup, sont pas experts de ces sujets-là, donc vont peut-être sous-traiter une partie aussi parce que c'est pas leur métier, ils veulent pas en faire. Mais je trouve que le vrai danger en fait pour le marché, c'est de rater cette couche conseil parce que beaucoup de marques peuvent être échaudées, peuvent être déçues, ou peuvent être hyper contents d'une campagne, mais qui ne va pas venir nourrir la marque et la brand awareness qu'on doit tous remplir quelque part. Enfin, pas que awareness, mais en tout cas, qu'on doit servir, en fait, parce que la marque est importante.
Non, mais là où t'as raison, c'est peut-être aussi une perception qui est liée au fait que la majorité du marché de l'influence aujourd'hui, c'est ces agences de talent. Et donc, en fait, la majorité des oui. gens qu'on rencontre ont cette approche-là.
Parce qu'ils émergent.
Exactement. Et donc, mais il n'empêche que, je pense que ces agences de talent, par la force des choses, parce qu'on peut pas avoir trois intermédiaires, enfin, ça commence à devenir compliqué, quoi,
oui.
d'avoir une agence strate globale, une agence qui est une agence de conseil, et une agence de talent, ça commence à faire beaucoup de monde.
Ouais.
Donc, par la force des choses, je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, ces deux expertises, et on en revient à Mediaslab, deux expertises, elles vont finir par se...
Mais en même temps, il va y avoir une juridiction qui va bientôt sortir pour dissocier les deux métiers.
Oui.
Donc,
comme d'hab, on nous rend la vie compliquée.
Tu pourras plus conseiller. En fait, le conseiller et le payeur, donc. Les agences de talent devront choisir un camp entre agence conseil ou agence talent.
Ouais, peut-être que ça aura le mérite de clarifier.
Oui, en tout cas voilà. En tout cas, on a déjà fait pas mal de boulot là-dessus, ce qui est pas mal. J'arrive à une partie où je te pose un mot tac au tac. Je te dis un mot, tu m'en donnes un autre.
Oula.
Ouais. Alors on va essayer.
Je suis nul en ça. Vas-y.
Mode.
Showroom.
Influence.
Showroom by.
Non, le mec, il fonctionne. Bon, attention, celui-là, tu vas pas y arriver. Dubaï. No showroom.
Soleil.
Voilà, très bien. Bon, je t'ai passé la version afflux voleur, etc. Mais ça, on peut en faire des kilomètres, donc on va zapper. Et on arrive vers la fin de l'épisode, au bout de 25 heures et 30 secondes.
C'est le plus long de l'histoire.
Mais en même temps, il marche bien, les longs. Donc, je suis ravi parce que on rentre dans le sujet, tu vois. Alors, tu peux nous donner les prochains projets, campagnes. Donc là, on est fin mars.
Ouais.
Les choses que tu peux nous dévoiler ou pas qui vont arriver en train
de. Alors, on a un prochain showroom buy en avril.
D'accord.
Avec une grosse influenceuse historique.
Très bien.
Historiquement, sur YouTube, très forte sur Instagram et qui a fait un peu de télévision dans une émission où il faut faire de la pâtisserie, j'en dis pas plus.
D'accord. Ça sort quand ça?
Voilà, c'est mi-avril.
Mi-avril. On saura pas qui c'est. Hein, ça, vous avez compris. C'est le teasing, on verra.
C'est un teasing.
Parce qu'on va peut-être sortir très bientôt. Donc.
Et on en a deux autres qui arrivent après. D'accord. Dans le pipe qui sont. Des très grosses personnalités.
D'accord.
Voilà. Et on a donc ça c'est pour juin, si je dis pas de bêtises. On a un dispositif 360 voyage.
D'accord.
Qui devrait nous faire collectivement voyager plutôt
pas
assez
mal.
Bien. Et là aussi, je suis dégoûté parce que je suis pas invité.
je pense qu'il faut que tu revoies
comme
ton modèle.
Comme le ski avec Matisse.
Pour des passions, je sais pas.
Donc, il y a peut-être un truc qui va pas dans l'équipe.
Je pense qu'il faut superviser. Il faut quelqu'un qui supervise.
Non, non, je laisse les gens bien plus compétents
donc,
que moi.
Avril, mais... pâtisserie. Enfin, pâtisserie, non.
Alors, ce sera pas de la pâtisserie, parce qu'à la base, elle était connue pour ça.
Oui, maintenant.
Maintenant, elle est plutôt connue pour du lifestyle.
Lifestyle, ok. Et ensuite, voyage en juin. Exactement. Ça sera une grande nouveauté, je pense.
Ouais, et ça va être assez costaud.
Est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune directeur marketing qui arrive dans une boîte?
Oh là, ou direct ou digital
aujourd'hui qui sort
de l'école. Alors si j'ai un conseil, c'est de bien s'entourer.
Ouais.
C'est pour moi c'est le s'il y a un conseil, c'est ça. Mm-hmm. C'est et ne pas avoir peur de s'entourer de gens qui sont meilleurs que soi. Moi je ne fais que ça et plus ils sont meilleurs que moi,
et plus
mieux je me porte.
Très bien. Un livre que tu emmènerais sur une île déserte ou une série, t'as le choix.
Série, ça va être ultra bateau, mais je pense que je l'ai maté peut-être 35 fois, c'est Friends.
Ah oui.
Je suis une espèce de fan toqué presque.
Ah oui.
Ouais. Ça fait pas jeune.
Non,
de
c'est
dire
pas
ça.
Non, mais c'est étonnamment assez féminin en général. Je sais pas.
Bah ouais, mais
c'est
je sais pas.
A priori.
Je suis toqué de Friends. Je pense que j'aurais du mal à vivre.
Mais en même temps,
sans...
c'est intemporel. Hein.
Ouais.
Enfin, je pense que.
Bah, en tout cas, ça le devient
ouais,
pour moi.
Ouais, ouais.
Mais je pense que j'aurais du mal à vivre sans, ouais.
D'accord.
C'est bizarre, c'est devenu une espèce de Madeleine de Proust.
C'est ta religion, quoi.
Ouais, presque. Et un livre, c'est pas facile. Hein. En choisir qu'un seul. Friends, je peux tenir sur une déserte. Choisir qu'un seul livre, ça serait un peu.
Puis Friends, t'as de quoi faire. Hein.
Ouais, il y a de quoi faire.
Ouais, on sait bien. On va rester là-dessus.
Il y a 10 saisons, on est pas mal.
C'est bien. Et dernière question, est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour venir au micro du podcast?
Eh ben, je te recommande d'inviter un mec qui a un peu un univers polymorphe de l'influence et des leaders d'opinion, qui est un mec qui s'appelle Akram Hanafi, qui bosse aujourd'hui chez M6, mais qui avant ça s'est occupé de plusieurs influenceurs pendant plusieurs années, et avant ça s'est occupé de la partie influence sur Endemol, qui a une vision qui est, je trouve, très intéressante de l'influence, à la fois ultra créative et en même temps très très pragmatique. Donc un
super.
Bon gars.
Écoute, on compte sur toi pour la mise en relation maintenant.
Bien sûr, avec plaisir.
Parce que c'est intéressant d'avoir aussi ce genre de profil qui gère de l'autre côté les influenceurs et qui a une vision un peu média, ce qui est intéressant. Merci beaucoup Albert
pour
cet échange très long. Très intéressant, mais vraiment bien. Non, mais vraiment super. Ça, tu vois, j'ai une autre image de showroom maintenant.
Ah bah génial.
Et c'est un peu l'objectif. Donc
l'objectif.
Tu vas jouer l'influenceur showroom.
Ça va être quoi ton prochain achat?
Je vais aller voir ce qu'il y a en vente.
En ce moment, il y a des très belles marques.
Donc je vais aller voir de spa.
Il y en a toujours.
Ouais.
Mais là, aujourd'hui
spécialement,
particulièrement.
Allez, j'y vais. Merci Albert.
Bye, à bientôt.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Attias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.